France Inter, le 18-20.
Il n'y a pas de coups, il n'y a pas forcément de cris, la violence est terrible, mais avant tout elle est psychologique et quand on entend des histoires comme ça, comme celle qu'on entendra probablement ce soir, on se dit que c'est pas possible de se laisser traiter de cette manière, de se laisser humilier, de se laisser blesser, de se laisser dire t'es moche, t'es nul, tu sers à rien. Mais pourtant c'est exactement comme ça que ça se passe, quand on entend ces récits, on se dit mais pourquoi elle n'est pas partie ou pourquoi il n'est pas parti? Comment il ou elle a pu accepter de se laisser humilier si longtemps? Vous avez peut-être vu tout récemment cette vidéo de Marion Bartoli sur Brute, c'est ce qui nous a fait réagir au téléphone. Elle raconte, maintenant qu'elle s'en est détachée, comment elle s'est laissée plonger dans des abîmes d'anorexie parce que son compagnon lui disait tout le temps « t'es grosse ». Les pervers narcissiques, on sait aujourd'hui qui ils sont, quels sont leurs mécanismes. On le sait sans le savoir d'ailleurs, parce qu'en traînant dans les couloirs d'Inter, en testant la pertinence de ce sujet sur mes collègues, comme on le fait souvent, j'ai entendu « moi j'en connais, forcément ». Ce qui n'est évidemment pas toujours vrai. Ça mérite donc une vraie définition, une vraie explication, quelques clés aussi. Qui sont ces hommes ou ces femmes qui ont l'amour ou la relation humiliante, blessante? Que protègent-ils en eux qui s'expriment en étant psychologiquement violents avec l'autre? Qui sont ces gens qui ne connaissent pas la culpabilité mais culpabilisent les autres? On en parle ce soir et c'est tout de suite.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Christine, c'est vous la première. Bonsoir et soyez la bienvenue.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir Jean-Charles Bouchou et je le remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé à sauver ma peau, si je puis dire, grâce à ses livres. Donc on en parle beaucoup des pervers, je pense qu'il y en a très peu, mais quand on tombe dessus, ça fait très mal. Je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique après la rupture, avec une addiction alcoolique et un stress post-traumatique. Et la relation avait duré 5 ans. Voilà. Je tiens à préciser aussi que ce sont quand même des personnes qui ont de très belles qualités, malgré tout, et que l'on reste certainement pour retrouver ça, les débuts et ces belles qualités qui ne reviendront évidemment pas.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes sortie de là, Christine ?
Oh, je suis sortie tout simplement parce que je sentais que j'étais remplacée.
D'accord.
Parce que j'étais au bout, j'étais vidée, je n'étais plus qu'une larve, hein, il n'y a pas d'autre mot, alcoolique en plus, qu'il savait très bien me dire et qui était vrai. Je ne buvais pas avant la relation, je tiens à le dire. Et maintenant, je me suis sortie de tout ça, bien évidemment, avec une thérapie. Et la thérapie m'a aidée, hein, il fallait que je comprenne. Et moi, comment j'étais restée, pourquoi j'étais restée là-dedans. J'avais des failles, pas très grosses, mais qui l'a fait éclater. Et maintenant, je suis sereine, j'ai des jours pas faciles, comme tout à chacun. Et je restais parce que dans cette relation aussi, je vivais à 300%. J'avais l'impression de vivre, vivre pas comme tout le monde. Voilà, ceux qui savaient très bien me dire aussi.
Merci beaucoup Christine, merci vraiment pour ce témoignage qui nous met vraiment dans l'ambiance et dans le sujet du jour. Et bonsoir à vous Jean-Charles Bouchou.
Bonsoir.
Vous la reconnaissez peut-être, cette auditrice Christine qui vous a salué tout à l'heure. Vous avez écrit Les pervers narcissiques, vous avez, j'allais dire réécrit, non, on a réédité
en fait, et il est complété, il est plus complet chez Erol.
Et complété parce que vous avez reçu, après l'avoir écrit, des appels, des témoignages, un peu comme celui de Christine. C'est la question qu'on pose à chaque fois, dans un cas comme celui-là, c'est, et ce qui me fascine d'ailleurs chez Christine, c'est qu'au fond, c'est pas elle qui part.
Non,
elle se répare après, mais c'est lui
qui
la jette.
Elle est remplacée. Ouais. Elle est remplacée, c'est ce qu'elle a dit.
Ouais.
Et ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'elle vivait avec le docteur Jekyll, qui avait l'air formidable, mais elle était obligée de supporter le Mr Hyde. Donc, ce qui est terrible, quand on veut arrêter de fréquenter Mr Hyde, on est obligé, évidemment, de quitter le docteur Jekyll, auquel on est tellement attaché. Il y a quelque chose de schizophrène là-dedans.
De la part de qui?
À l'origine de la situation. La situation rend schizophrène. C'est une situation qui rend fou. On ne peut pas s'en sortir autrement qu'en en se coupant en deux.
Est-ce que c'est toujours le même schéma? C'est-à-dire quelqu'un qui est en société particulièrement avenant, très sympa, peut-être même les gens qui disent « ton mec il est formidable, ta femme est super », et à la maison quelqu'un de différent. Est-ce que c'est toujours ça ou est-ce que les proches peuvent quand même détecter quelque chose?
Alors généralement, la personne qui emploie massivement des mécanismes pervers narcissiques a une victime. Elle en a rarement plus, elle pourrait en avoir deux. Mais ensuite, elle cherche à briller effectivement aux yeux de sa famille, aux yeux des gens de son travail.
C'est-à-dire qu'elle se coupe jamais.
Non.
À aucun moment,
pas. Ouais. On la confond jamais. Ça, les insultes, elle pourrait nous le confirmer, Christine, elles se font à huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoins. Et quand il y a des témoins, il y a alors un grand sourire, on redevient le gentil Dr. Jekyll, pardon.
Christine, puisque vous êtes encore là, est-ce que vous en avez parlé un moment autour de vous? Et est-ce que vous entendiez des phrases phrase du genre, mais c'est pas possible, il est formidable,
oui,
ton mec.
Oui, oui. Alors, bon, mes proches ont tout de suite, me connaissant, ont compris que je ne racontais pas d'histoire. Dans son entourage à lui, ses amis, bien sûr, c'était moi la folle. C'était moi, parce que moi, j'éclatais en public, forcément. Pas lui.
Oui.
On me disait qu'il était un gentleman. Et il avait un tout autre langage, ne serait-ce que le ton était ordurier et un ton très vulgaire entre nous. Et c'était un homme très bien, notable dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est terrible, l'entourage, parce que lui, il est comme ça. Il est structuré comme ça. J'ai pardonné d'ailleurs. Mais l'entourage qui se doute, qui voit, c'est terrible pour les victimes.
Et qu'est-ce qu'il vous disait, votre entourage? Est-ce qu'il vous disait, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Christine? Ou alors, tu rêves, Christine? Qu'est-ce que vous entendez?
Mes amis me disaient d'abord, on ne te voit plus, parce que ouais. Il ne m'avait pas isolée de sa propre volonté. Il ne me disait pas, tu ne verras pas tes amis. Mais il les critiquait ou il les séduisait. Il est en séduction avec mes amis. Donc évidemment, je n'invitais plus personne, j'avais pas envie de voir ça. Et l'entourage, bah, une fois que j'étais partie, me disait, bon, en fait, bah, c'est bien, t'as fait le mieux, tu es partie, maintenant tu dois aller bien. Non, le pire a été après, parce que je me suis retrouvée avec un vide immense, et une souffrance psychologique énorme. Et là, ça a été très difficile. Parce que quand j'étais dans la relation, j'étais en interaction avec quelque chose quand même. Malgré tout.
Merci beaucoup, Christine. Jean-Charles Bouchou, est-ce qu'il faut, et on comprend cette difficulté, s'extraire de cette relation, comme on s'arrache
un pansement, en fait? Il faut s'arracher, complètement, oui. Il faut s'arracher, et je me répète, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut accepter de perdre Dr. Jekyll. C'est ça qui est important. Il faut perdre la bonne part pour pouvoir être débarrassé de la mauvaise part. Ce qui est intéressant dans le témoignage qui est donné, parce qu'il y a quand même différents types de mécanismes, l'entourage est soit exclu, à ce moment-là, on est une sorte d'isolement de la victime, on va lui dire tes parents ne valent rien, tes amis ne valent rien, et beaucoup de victimes se trouvent isolées, ou dans les cas les plus difficiles, comme celui qu'on vient d'entendre, l'entourage est séduit. Et à ce moment-là, l'entourage devient, son corps défendant, je pense, complice. C'est-à-dire qu'on va dire, on ne comprend pas pourquoi tu réagis comme ça, l'autre est tellement charmant, tellement gentil, tu devrais...
Est-ce qu'il y a un plaisir à blesser l'autre, t'es moche, t'es grosse, t'es nulle?
Je pense qu'à l'origine, ce n'est pas le but, mais je pense que ça vient à force, oui. Oui, le plaisir vient remplacer la culpabilité. S'il n'y a pas une jouissance, alors là, on ne devrait plus parler de pervers narcissique peut-être, mais de sadique narcissique. Mmh. C'est-à-dire que ça fait du bien de faire du mal. Et je pense que la jouissance vient en lieu et place de la culpabilité qui n'existe pas.
Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Nathalie, allez-y. Bonsoir.
Oui, en fait, j'ai vécu aussi pendant 15 ans avec un pervers narcissique. Il m'a quitté parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre.
Prenez votre temps, respirez un grand coup. On est entre nous, tout va bien, on a du temps surtout, allez-y.
Oui, et donc, je me suis séparée parce que tout de suite, il m'a jeté dehors. Et on a trois enfants ensemble. Il a magouillé pour pouvoir avoir les enfants et depuis c'est lui qui les a. Et mes filles, notamment la dernière, est vraiment très très mal. Elle a 5 ans, elle dit qu'elle veut mourir, qu'elle veut se taper tout le temps contre les murs, elle se cogne, ou alors si c'est pas elle, c'est moi ou sa sœur. Et on dirait que ça lui passe au-dessus de la tête ou qu'il veut pas s'en rendre compte ou je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ça, il n'en prend pas compte. Et moi je l'ai apporté aux urgences de là où j'habite parce que j'y arrive plus. Et la psychologue elle m'a fait un mot comme quoi il fallait faire suivre, mais c'est toujours la même chose en tournant rond. C'est comme il faut qu'elle soit suivie par quelqu'un qui habite de sa ville à elle, parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Donc je les vois une fois un week-end sur deux à la moitié des vacances. Et donc je suis obligée de passer par des recours un peu spéciaux comme les urgences pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'occupent de ça. Mais même avec ça, je suis pas sûre qu'ils le fassent et j'ai vraiment peur pour ma dernière, surtout que la deuxième, il lui a fait du chantage affectif parce qu'elle voulait venir vivre avec moi. Donc elles ont peur de lui, elles lui disent rien. Je ne sais pas comment faire, en fait. Je voudrais savoir.
Merci beaucoup, Nathalie. Je ne sais pas si on peut très concrètement, Jean-Charles Bouchou, donner une clé à Nathalie.
C'est très difficile. Ce qu'elle fait, c'est très bien. Donc, elle emmène les enfants voir des psys. Et effectivement, les enfants vont être pris en charge et soignés. Mais je crois que ce qui est important, on éduque beaucoup nos enfants par l'exemple. Donc, si vous voulez faire du bien à vos enfants, faites-vous du bien à vous-même déjà. C'est-à-dire que comment Nathalie peut-elle faire aujourd'hui pour se sentir mieux? Et les enfants, à un moment donné, s'apercevront, tiens, j'ai maman va bien et papa est dans le chantage affectif. À qui est-ce que je vais m'identifier? Auprès de qui est-ce que je vais me sentir le mieux? Donc, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle le bon égoïsme, voire même l'égoïsme altruiste. C'est prendre soin de soi.
Ce qui est extrêmement compliqué dans ce que nous raconte Nathalie. Vous disiez dans les exemples précédents, et on vous entend bien, qu'il faut essayer de s'arracher de ses relations comme on enlève un pansement. Oui. Sauf que là, comme il y a des enfants, on peut pas s'arracher à la relation. Donc, il y a une espèce
et
de...
Et c'est pourtant
de,
ce qu'on peut faire de mieux.
Voilà, mais il y a une espèce...
Même quand il y a des enfants.
Voilà. Et là, on va pas laisser les enfants pour autant. Donc, il y a une espèce de continuité, en fait, dans cette perversité. C'est ça qui est très difficile. Oui. Est-ce qu'on peut exercer la même emprise sur les enfants que sur, en l'occurrence, là,
Bien sûr. Et parfois même, ce qui est catastrophique, sur un enfant et pas les autres. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant symptôme, c'est celui sur lequel on va taper, c'est celui sur lequel, dont on va se moquer, qu'on va rabaisser. Et les autres, au contraire, peuvent même être survalorisés. Ah, vous êtes bien mes enfants, et toi tu ressembles à ta mère, ou à ton père, suivant les cas.
Toute la difficulté pour Nathalie d'essayer de montrer qu'elle va mieux,
dont on comprend
jusqu'à quel point ça peut
ça
être,
difficile.
Extrêmement difficile. On vous souhaite bon courage, Nathalie, réellement. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Dominique.
Oui, merci. Je suis très heureuse d'être à l'antenne. J'adore vos émissions. Donc là, mon cas est un petit peu particulier parce qu'en fait, depuis de nombreux mois, je m'interroge sur les pervers narcissiques et je trouve énormément de choses au sein d'un couple. Et voilà, c'est absolument terrible, bien sûr, mais très, très peu quand c'est entre parents et enfants. Et moi, en fait, je suis confrontée à ce problème-là. J'ai découvert avec vraiment une souffrance terrible et une immense surprise que mon fils était un manipulateur pervers narcissique. Et donc, depuis le mois de juillet, on a découvert ça et c'était la douche froide. Je ne savais pas que ça pouvait exister entre parents et enfants. Et j'ai tenté de me documenter. J'ai trouvé très 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 peu de choses à ce sujet. Il y a eu récemment des émissions à la télévision, mais on n'aborde jamais cette problématique. Mmh. Donc quand j'entends ces couples, effectivement, c'est absolument terrible, enfin ce qui se passe au quotidien, parce que notre fils est en partie assez tôt de la maison pour du sport, on était assez éloigné, donc la souffrance bien évidemment n'était pas au quotidien, mais où je trouve que la souffrance est réellement terrible dans ce cas-là, c'est que autant un conjoint, on peut se dire j'accepte de ne plus le voir, il m'a fait énormément de mal. Là, on parle de son propre enfant, de sa chair, qui concrètement prend du plaisir à vous faire du mal. Et ça, c'est quelque chose qui semble surréaliste. On ne peut pas s'imaginer un instant que son propre enfant puisse être comme ça. Et là, le facteur déclenchant, donc en juillet, ça a été la naissance de sa petite fille. Donc, il savait à quel point nous étions fous de joie avec son papa par rapport à cette naissance. Donc, nnous l'avons vu une fois et une quinzaine de jours après la naissance, il m'a téléphoné en me disant que qu'il voulait plus qu'on aille chez lui, il voulait couper les ponts, qu'il acceptait peut-être qu'on rencontre sa fille, mais quelques heures de temps en temps.
Mais du coup, il n'y avait rien eu avant, Dominique, parce que du coup, ce que je me demande, c'est pourquoi vous avez qualifié en fait l'attitude de votre fils, qui doit être effectivement très très dérangeante et qui vous blesse. On l'entend bien. Pourquoi vous l'avez qualifié de pervers narcissique?
Parce que ensuite, avec du recul, bon, plus dans ma famille, j'ai une thérapeute, donc du coup, elle avait déjà, elle connaissait très très bien mon fils, qui souvent, la contactait, et depuis très très longtemps, de temps en temps, elle nous disait, attention, il est manipulateur, il est mais elle-même s'est fait avoir, disons, et avec du recul, il y a plein de petites choses qui maintenant, ressurgissent, en me disant, non, tout ce que je pensais qui était de l'ordre de crise d'ado, ceci, cela, c'était pas ça, c'était déjà dans le symptôme de la perversion à vouloir faire du mal, à pas téléphoner pendant des mois, à ne plus faire Noël avec nous pendant des années alors que j'étais attachée, enfin plein de petites choses qui petit à petit ont ressurgi en me disant
merci.
Non, c'était pas, voilà.
Pardon de vous interrompre, Dominique, pour qu'on laisse le temps à tous les gens qui sont en train de nous appeler de prendre un peu leur part aussi. Jean-Charles Bouchou, sur le diagnostic que fait Dominique, au fond, est-ce que, alors on comprend à la fois la souffrance évidemment de Dominique, la difficulté, ça on le comprend bien, est-ce qu'on est dans une définition de ce que vous appelleriez vous le pervers narcissique?
Non, je crois pas, non. Là, ce que vit cette dame est très dur, et c'est vraiment, et c'est bien qu'elle puisse témoigner, pouvoir se libérer un peu, ça fait du bien. Ce sont pas des mécanismes pervers narcissiques. Dans les mécanismes de pervers narcissiques, il y a un englument, c'est-à-dire qu'on empêche l'autre de partir, justement. Alors que là, c'est le contraire. Lui, il demande de la distance, il demande exagérément de la distance, mais ça n'a absolument rien à voir avec les mécanismes pervers. Il peut effectivement être quelqu'un de méchant et avoir une attitude qui peut sembler perverse ou qui est perverse. Attention, l'association des mots pervers et narcissique, pervers narcissique, sont vraiment des mécanismes très précis qui se jouent toujours lorsqu'il y a un lien difficile à rompre, c'est-à-dire un lien filial, parent envers les enfants.
Alors j'allais vous poser la question parce qu'on entend beaucoup de couples là depuis le début.
Un lien de subordination.
Ça marche pas que dans le couple.
Non, un lien de subordination, c'est-à-dire un employeur ou un chef de service vis-à-vis d'un salarié, et effectivement dans le couple lorsqu'il y a un lien amoureux.
Donc le harcèlement moral, parfois, poussé à son extrême, c'est du fait d'un pervers narcissique.
Ah, complètement. On le voit en ce moment, il y a un procès au sujet d'une entreprise qui avait érigé les mécanismes pervers narcissiques comme mécanismes de travail, quoi, pour pouvoir licencier.
Parce que vous le dites aussi dans votre livre, c'est même comme ça que vous l'ouvrez, il y a aussi le problème de la notion fourre-tout, un peu. On a un peu tendance désormais
c'est ce qui s'est passé depuis l'apparition de mon livre.
Voilà, à mettre ce terme derrière beaucoup de choses. Comment on fait finalement pour distinguer un vrai pervers narcissique d'un gars qui serait simplement, ou d'une fille d'ailleurs, qui voudrait tout contrôler, qui voudrait tout prendre en main, qui serait...
Les mécanismes pervers narcissiques sont en fin de compte des mécanismes psychotiques, c'est-à-dire des mécanismes propres à la schizophrénie par exemple, qui au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet, qu'on appellerait donc un schizophrène, va se jouer à l'intérieur d'une relation. C'est-à-dire, on l'entendait tout à l'heure, Jekyll et Hyde, l'angoisse de dissociation, elle ne va pas se faire à l'intérieur du sujet qui a peur d'agir à son corps défendant, mais à l'intérieur du couple, c'est-à-dire toi et moi, dans une relation fusionnelle, ne faisons qu'un, je suis Jekyll, tu es Hyde, vous voyez ? Et ces mécanismes projectifs, ces mécanismes de clivage se jouent à l'intérieur du couple, dans l'entreprise, dans la famille ou dans la relation amoureuse.
Bonsoir Sarah.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Sarah, allez-y.
Donc, moi, je témoigne parce qu'en fait, j'ai été victime d'un pervers narcissique. C'était, le mari de ma mère qui est arrivé dans notre vie quand j'avais à peu près 12 ans.
Respirez un bon coup, Sarah.
Voilà, qui a eu énormément d'influence amoureuse sur ma mère, allant jusqu'à demander à ma mère à faire un choix entre sa fille et moi. Ma mère a déjà fait mes propres valises à l'âge de 14 ans, m'a mis dehors. La suite de ça, j'ai une mère qui n'a jamais pu ouvrir les yeux. De cela, ça a été très très compliqué, d'autant plus que c'était une personne très influente, qui avait énormément de charisme, un métier là-dedans et qui avait du coup énormément d'amis. Et en fait, nous on vivait ça en vase clos. Et surtout moi, donc énormément de mots d'insultes, et puis surtout de l'isolement, puisque en public ça se passait toujours bien et les amis de ma mère disaient que c'était moi qui posais des problèmes. Voilà. Et la difficulté que j'ai eue, c'est que par la suite j'ai rencontré un pervers narcissique avec qui je me suis mis en couple et qui a profité de cette situation pour me détacher en fait finalement de tout le monde, m'éloigner pour partir à l'autre bout de la France. J'ai été 10 fois plus victime. Il contrôlait tellement tout de moi que je n'avais même plus les clés de la maison pour pouvoir rentrer chez moi après mon travail.
Et vous êtes où aujourd'hui, Sarah? Et comment ça va aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vis chez des amis. J'ai pu me sortir de cette relation grâce à mon travail parce que je suis mandataire judiciaire et que mes collègues ont pu me dire « Mais non, Sarah, tu es quelqu'un. Et non, en fait, ce qu'il dit de toi, ce n'est pas vrai. » Donc, en fait, elles sont allées voir ma direction et elles ont dit « Bah écoute, voilà, tu prends des jours de congé, tu démissionnes et tu pars.
Merci Sarah, je vais pas vous faire raconter trop longtemps ce que vous avez vécu parce qu'on sent que c'est encore compliqué pour vous, mais merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, merci d'avoir le courage de témoigner aussi parce que c'est pas simple de raconter et c'est aussi un début de soin d'ailleurs Jean-Charles Bouchoux, j'imagine, quand on est capable de dire comme Sarah et comme les autres, j'ai été victime d'une personne comme ça, je me suis laissé faire intégralement,
oui,
c'est le début de quelque chose qui dit que ça va mieux.
Bien
en
sûr,
fait,
oui, hein. Quand je reçois des personnes qui ont vécu ce genre de choses, les premières séances, elles ne font que parler de raconter ce qu'elles ont vécu. Ensuite, il y aura une deuxième partie du travail où il faut qu'elles apprennent à redevenir sujet de leur propre vie. Parce que quand on demande à quoi reconnaît-on un pervers narcissique, à ça j'ai envie de répondre, mais vous êtes le sujet, c'est qui? C'est pas cet autre dont on parle tout le temps. Le sujet, c'est vous. Arriver à redevenir sujet, et je crois qu'elle y est arrivée en partie grâce à ses collègues de travail qui lui ont dit non, mais ici tu as une structure, ici tu es chez toi, ici tu es la bienvenue.
Ce qui est fou dans le témoignage de Sarah, c'est qu'il y a une première expérience avec son beau-père, et puis derrière, il y a une répétition avec son compagnon. Est-ce que c'est fréquent?
Ah oui, très fréquent. Souvent, ce qu'on a vécu dans notre enfance, nous le revivons à nouveau, comme s'il s'agissait, alors inconsciemment, j'imagine, de pouvoir arriver enfin à trouver une solution. Le problème, c'est que quand on répète la même situation, on retrouve les mêmes mécanismes, et il y a un phénomène de régression, c'est-à-dire que face à quelqu'un de pervers narcissique, on redevient tel un enfant. Avec une tendance soit à se laisser faire, soit à se rebeller, mais on se rebelle de manière pas toujours très intelligente.
Est-ce qu'il y a une espèce de profil du pervers narcissique? Je vous pose la question parce qu'on a une question là sur franceinter.fr qui dit, y a-t-il des points communs dans l'enfance des personnes qui subissent les personnes narcissiques et aussi des pervers narcissiques eux-mêmes en fait.
Un psychiatre qui avait étudié le sujet avant moi voyait ce qu'il appelait de l'incestualité, c'est-à-dire des relations avec les parents. Alors il n'y a pas forcément d'inceste, c'est-à-dire de passage à l'acte, mais des relations qui ne sont pas normales. Où souvent le père n'arrive pas à prendre sa place, ou à l'inverse, il prend trop de place, il est écrasant, et à ce moment-là, il y a un des deux parents qui disparaît.
Est-ce qu'il y a des coups parfois, ou est-ce que c'est que psychologique?
Normalement pas. C'est-à-dire que si on a affaire à véritablement à quelqu'un qu'on pourrait nommer pervers narcissique, il est justement pervers narcissique pour pouvoir briller. On brille pas en donnant des coups. Par contre, quelqu'un qui est violent physiquement emploiera aussi des mécanismes pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'en plus des coups, il va vous dévaloriser et vous isoler, et les mécanismes sont très ressemblants entre celui qu'on pourrait appeler un psychopathe, celui qui donne des coups, et un pervers narcissique, celui qui n'est que dans la parole.
Bonsoir Jean-Robert.
Oui, bonsoir Fabienne.
Soyez
bonsoir
le bienvenu.
M. Bouchou. Je suis content d'intervenir en tant qu'homme après toutes ces femmes.
J'allais le dire, hein, absolument Jean-Robert. Il y a beaucoup de femmes, mais d'ailleurs on posera la question tout à l'heure de savoir pourquoi c'est autant de femmes.
Ouais.
Allez-y.
J'ai été très touché par le témoignage de Sarah qui m'a précédé, c'est le prénom de ma fille, et oui, la reproduction, ça m'a touché aussi. Bon ben voilà. Je voulais dire qu'il y avait aussi des femmes qui pouvaient être dans des comportements... J'ai du mal à intituler le pervers narcissique parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on développe comme ça, comme on dit surdoué, machin, bicéphale, bipolaire, etc. Il y a plein d'intitulés qui tombent et qui sont pas toujours exacts. Simplement, je voulais dire que oui, il y a aussi des femmes et que ça se passe aussi dans le travail. Votre invité, Monsieur Bouchoux, l'a évoqué tout à l'heure à partir de France Télécom. Moi, je l'ai plus ou moins vécu, et c'est vachement difficile à définir exactement, mais c'est vrai que moi, mes besoins de mobilité professionnelle ont été introduits par une personne ou un ensemble de personnes qui ont soutenu cette personne qui était dans des comportements assez dégueulasses. Mais et ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, c'est des gens qui ont une empathie extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils savent venir vous chercher, vous valoriser dans ce que vous avez de doute, etc. Puis à un moment donné, comme ils ont bien identifié la part doute, ombre et lumière, la lumière, ils l'éteignent et ils font monter le doute. J'espère que j'ai été clair, précis et tout ça.
Merci, voilà. Absolument, Jean-Robert. Merci beaucoup. Jean-Charles Bouchoux, je profite de ce que disait Jean-Robert au début, c'est-à-dire qu'enfin, c'est un homme qui téléphone. Est-ce qu'il y a autant de pervers narcissiques que de perverseux narcissiques ou pas?
J'en suis persuadé. Les mécanismes pervers narcissiques sont employés par des personnes qui tentent de réchapper à la folie. Donc la question, est-ce qu'il y a autant de fous chez les hommes que chez les femmes? Et évidemment, oui, la parité est respectée. Les femmes parlent plus facilement.
Est-ce qu'on a conscience à un moment de son comportement lorsqu'on est pervers ou pervers narcissique? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, ça se soigne? Pardon de dire ça, c'est très béotien comme question.
Alors, j'aurais préféré le terme de mécanisme de défense pervers narcissique, parce que s'il existe un pervers narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fonctionnerait que là-dedans, il ne connaît pas la culpabilité parce que c'est toujours l'autre qui est coupable, donc il n'est pas malade. S'il n'est pas malade, il ne va pas demander à se soigner. Et en plus, la perversion narcissique doit être quelque chose d'extrêmement confortable quand on en est l'auteur. Par contre, il existe des personnes qui, dans des moments de difficulté, difficultés de vie régressent et dans leur régression emploient des mécanismes pervers. Le problème, c'est quand...
Donc est-ce que ça peut disparaître?
Ça peut disparaître, oui. Mais quand ils disparaissent, quand ça disparaît, s'ils s'en souviennent, ça risque de les faire régresser à nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont être obligés de mettre le couvercle dessus. Ils peuvent pas faire face.
Jean-Charles Bouchou, est-ce qu'il y a de l'amour forcément, en fait? Alors, quand c'est une relation dans le travail, pas forcément. Quand c'est une relation de couple, est-ce qu'il y a forcément de l'amour ou pas?
Ben, un amour d'objet, l'autre est bien utile, on n'a pas envie de le perdre. Alors, on a besoin de lui pour pouvoir le dévaloriser, on a besoin de lui sans doute pour avoir des rapports sexuels, je sais pas, pour briller en société. Parce qu'il faut comprendre que souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les victimes sont admirées par le pervers, qui ne le leur dira jamais et qui va même leur dire le contraire. C'est-à-dire que j'ai besoin de briller de la présence de l'autre parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'il a un bon statut, parce qu'il est, je sais pas moi, écrivain, médecin, avocat. Mais quand on est dans l'intimité, je vais lui dire exactement l'inverse. Vraiment, tu vaux rien et je vais le dévaloriser.
Je pense au premier témoignage qu'on a eu de Christine qui nous disait que c'est pas elle qui est partie, c'est son homme, son mari, je ne sais pas, qui a rencontré quelqu'un d'autre. Est-ce que lorsqu'on a ce comportement avec quelqu'un, on l'a forcément avec son conjoint suivant ou pas forcément?
Si on est pervers narcissique, oui, on aura de nouveau, ou alors on l'aura avec un tiers. On va trouver une nouvelle victime à l'extérieur. Après, vous avez des personnes qui ne sont pas des pervers narcissiques, mais qui n'emploient des mécanismes pervers narcissiques quand ils se sentent mal et en danger. Moi, je me souviens d'un exemple d'une jeune femme. Si elle était très amoureuse, elle se sentait en danger, et là, elle déclenchait des mécanismes pervers. Alors que si elle n'était pas très amoureuse, elle pouvait être très gentille avec l'autre, en fin de compte, qui ne la mettait pas en danger.
Bonsoir Marianne. Pardon, bonsoir,
oui,
Marianne.
Bonsoir, merci de prendre mon appel, et merci pour les témoignages qui sont très éclairants. Alors, comme j'expliquais, moi, je n'ai pas été victime. C'était plutôt une question par rapport à l'entourage, parce que ma nièce, dont j'étais très proche, a rencontré à l'âge de 18 ans un homme pervers narcissique qui l'a coupé rapidement de toute sa famille. Et pendant 10 ans, on n'a plus eu aucune nouvelle d'elle. On ne savait pas où elle était. Quelquefois, on s'est demandé si même elle était encore en vie. Elle est ressortie de cette relation au bout de 10 ans. Ils ont eu 2 enfants. Elle s'était posée comme limite le fait qu'il pouvait éventuellement être violent vis-à-vis d'un des 2 enfants, ce qu'elle a fait. Mais au niveau de l'entourage, moi, pour ma part, je me suis sentie complètement démunie, impossible d'intervenir en quoi que ce soit, puisque dès le début, alors qu'on était très proches, on a eu des retours de la part de ma nièce disant « vous ne comprenez rien ». Et après, plus aucune nouvelle. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens disaient « ben, il faut aller la chercher ». Mais pour aller la chercher, encore fallait-il savoir où elle était. Et moi, l'impression que j'avais, c'est que de toute façon, elle n'avait que lui en tête, et que, mis à part la séquestrer dans une cave, il y avait pas grand chose à faire. Donc voilà.
Et du coup, pardon de vous poser la question, Marianne, ça s'est terminé comment, cette histoire avec votre nièce?
Alors, elle en est ressortie, elle s'est reconstruite, elle a fait ce qu'il fallait vis-à-vis des enfants aussi. Je dirais qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Quant à lui, il a retrouvé 3 autres compagnes après ma nièce. Ça a été croissant au niveau de la violence. Et finalement, il y a une personne des services judiciaires, enfin un gendarme qui a recoupé les témoignages de toutes les victimes. Il y a eu un procès, il a été condamné à une longue peine avec obligation de se soigner, mais un jour ou l'autre, il ressortira de prison. Et ce que disait ma nièce, qui est à l'écoute et que j'embrasse, c'est que elles se sont dit toutes les 4 qu'un jour il allait finir par tuer quelqu'un.
Et ben on l'embrasse aussi, votre nièce qui nous écoute. On est content pour elle qu'elle se soit sortie de cette relation-là. Merci beaucoup, Marianne. Est-ce qu'il peut y avoir un crescendo dans les attitudes, on va dire, d'un pervers narcissique?
Oui, là dans le témoignage qui est donné, on est clairement dans la psychose. On a même dépassé la
perversion narcissique. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que j'ai l'impression que c'est pire même.
Alors, il peut y avoir un crescendo si les mécanismes pervers narcissiques ne suffisent plus.
Et est-ce que le crescendo peut finir avec des coups, justement, comme dit Marianne, avec même quelque chose de terrible?
La force du pervers narcissique, c'est la parole. Donc, normalement, il ne passe pas à l'acte physiquement. Mais si vous l'empêchez de parler, ou si à un moment donné, sa parole ne suffit plus, ou si simplement vous dites « je m'en vais », c'est-à-dire « tais-toi, je t'écoute plus », à ce moment-là, oui, il lui restera plus d'autre possibilité que de passer à l'acte.
Le sens de la question de Marianne, c'était aussi « que peut faire la famille, au fond, dans ces cas-là ?»
Rien du tout. La seule chose qu'on puisse faire, c'est peut-être écrire une lettre à la personne concernée en lui disant « j'ai remarqué que tu t'étais éloigné de nous. Je ne te juge pas. Sache que ma porte te reste ouverte si tu as besoin de venir, même si du temps a passé. »
Donc ça veut dire donner des nouvelles régulièrement, même s'il n'y a pas de réponse,
par exemple,
les anniversaires, Noël.
Pas entrer dans l'accusation ni dans les conseils, ça ne sert à rien. C'est même généralement contre-productif.
Il y a Emma qui nous demande sur l'appli de France Inter, c'est compliqué, je ne sais pas comment sortir de ma relation avec un pervers narcissique, dit-elle. Y a-t-il des structures pour m'aider ?
Oui, ça existe. Là, il faut qu'elle se renseigne dans son département. Je ne saurais pas dire. Il faudrait me faire passer le mail et voir dans quel département elle habite. Ça peut être des associations, ça peut être des structures, ça peut être la DAS aussi. Hein.
Est-ce que les associations pour les femmes battues sont équipées pour aussi prendre en charge des femmes qui sont victimes de pervers narcissiques?
Alors après, ça dépend des départements. Ils sont plus ou moins bien équipés suivant les endroits où on est.
Bonsoir Annabelle.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Annabelle.
Je vous remercie de prendre mon appel. Je me suis beaucoup reconnue dans les témoignages précédents. Moi, j'ai une question qui concerne l'après. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir parce que l'étau n'était pas suffisamment resserré et que j'ai pu réagir en temps et en heure pour m'en sortir. Mais il y a les suivantes. Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut les prévenir? J'ai essayé de prévenir la personne qui m'a succédé. Parce qu'en effet, il y a toujours une victime juste après. Si ce n'est qu'il y a un petit chevauchement parfois, quand ils ont fini d'aspirer tel un vampire l'énergie vitale de la personne à qui ils ont sur laquelle ils étaient focalisés. Et en fait, ma question c'est comment faire en tant que ancienne victime pour pouvoir agir quand on a identifié quelqu'un et qui est pervers, qui va faire du mal à nouveau à quelqu'un. Voire à plusieurs personnes.
Voilà. Merci beaucoup, Annabelle. Jean-Charles Bouchou, c'est terrible parce que je vous vois faire non avec la tête en même temps que vous écoutez Annabelle.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même, elle a raison Annabelle, d'aller voir la suivante en lui disant voilà comment pour moi ça s'est passé.
Bon,
donc méfie-toi.
Vous pouvez le faire si vous voulez, mais généralement ça ne marche pas déjà. Et puis de toute façon, vous êtes là pour, je l'ai dit à un moment donné, redevenir le sujet de votre propre vie. Avant, vous avez fait de l'autre, qu'on désigne le pervers narcissique, le sujet de votre histoire. Il est comme ci, il est comme ça. Et puis maintenant, le sujet devient la suivante. Il faut que j'aille la prévenir. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait envie? Comment est-ce que vous allez vous réaliser? Elle est là la bonne question, je crois.
Occupez-vous de vous d'abord avant de vous occuper des autres.
Mais bien sûr. Alors moi, j'aime cet exemple qu'on m'avait donné un psychothérapeute. Si vous êtes dans un avion et qu'il y a une dépressurisation, vous savez, vous avez les max à oxygène qui tombent.
Vous avez le droit d'aider votre voisin à mettre son masque. Monsieur Bouchou.
Est-ce que vous le passez d'abord à votre enfant qui est à votre droite?
Bah oui.
Est-ce que vous le passez d'abord à votre mari qui est à votre gauche? Mais pas du tout. C'est vous le premier qui devez mettre le masque à oxygène. Sinon, vous serez en incapacité d'aider les autres.
Vous n'avez aucune morale. Y a-t-il un lien entre pervers narcissique et mythomane? C'est ce que nous demande Joël sur franceinter.fr.
Alors, les pervers narcissiques sont très souvent mythomanes, ils se racontent des histoires.
L'un va avec l'autre.
Oui.
Incroyablement séducteur, de ce que j'entends, en tout cas, dans
souvent,
tous les témoignages,
oui.
Parce que visiblement, il n'y a pas de souci à trouver une autre relation derrière.
Ouais, c'est
etc.
Le bon docteur Jekyll, plaît à tout le monde.
Tiens, un témoignage qui nous dit, j'ai passé 19 ans, avec un pervers narcissique, j'ai eu deux enfants, grâce à ma saisine du juge pour enfants, j'ai pu protéger mes filles.
Ouais, on nomme un tiers, c'est-à-dire que j'ai entendu tout à l'heure, c'est passé très rapidement, la dame qui disait, elle avait décidé de ne partir que le jour où il s'en prendrait aux enfants.
Ouais.
Ça, c'est pas normal. On n'a pas à faire de nos enfants le fusible ou le tiers, il n'a pas à s'en prendre à vous, et vous devez vous protéger vous-même. J'en ramène toujours à ce bon égoïsme, c'est-à-dire si jamais je suis insulté ou battu, je dois partir. Je ne dois pas attendre que ce soit les enfants qui prennent pour pouvoir partir.
Et bien précisément, Catherine nous appelle au 0145 24 7000 et a des enfants aussi. Bonsoir Catherine.
Bonsoir, je crois que c'est mon tour. Donc je vais juste parler très rapidement. J'ai 50 ans, je suis sage-femme et j'ai vécu pendant 15 ans avec un pervers narcissique avec qui j'ai fait 4 enfants. Je pense que ce qui n'a pas été dit dans l'émission, c'est que les pervers narcissiques font beaucoup d'enfants puisque c'est une façon de prendre pouvoir sur la femme avec qui ils sont des enfants qui ne deviennent plus que des mères ambulantes. Ce que je voulais préciser, c'est qu'il existe toujours des outils pour s'en sortir. Moi, j'ai été répudiée et spoliée et ça fait 12 ans maintenant que je suis séparée du père de mes 4 enfants. Et ce qui m'a sauvé, c'est une espèce d'outil mental, psychique, où quelque part, j'ai accepté de perdre mes enfants. Il a été une période où le juge en appel devait décider de la garde des enfants. Et la garde alternée avait été décidée, ce qui est tout à fait une horreur quand vous avez affaire à un pervers narcissique. Et j'ai fait le deuil complet de la garde de mes enfants. Et j'ai parlé aux enfants, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Si le juge décide une garde alternée, je ne vous verrai plus, parce que si je vous vois en alternance, c'est la mort, et je ne veux pas mourir parce que je veux rester votre mère. Donc vous allez venir faire des courriers qui viennent contredire les premiers, qui avaient été écrits sous l'emprise et sous la peur du père, et soit vous vous positionnez, mais moi je me positionne en tant que mère qui veut rester vivante. Et c'est comme ça que j'ai réussi à contrer le positionnement du père pervers.
Quel âge avaient vos enfants, Catherine, si je peux me permettre?
Alors, ils avaient 5 ans, 10 ans, enfin, ils sont tous à peu près tous les 3-4 ans, donc ils avaient entre eux... L'aîné, je suis un peu confuse, vas-y. L'aîné avait 18,
okay.
18 et puis moins 3, quoi, entre 18 et 8.
D'accord.
Donc, ceux qui se sont positionnés, qui ont réellement sollicité le juge, ce sont ceux du milieu,
d'accord,
qui ont demandé à être convoqués par le juge aux appels.
D'accord.
Voilà, donc je pense qu'on peut toujours s'en sortir, il faut y croire. Maintenant, moi, ce que j'espère, parce que en tant que sage-femme, j'en vois beaucoup des femmes qui sont sous emprise, c'est qu'il existe des structures d'accueil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vient pas remettre en cause sur le fait que l'alcoolisme est une maladie, que la drogue est une maladie, que même l'obésité est une maladie, et d'abord pas même, c'est une maladie. Eh bien, l'emprise par un pervers est une maladie, demande des soins et demande un sevrage. Voilà. Et que les mères de famille qui sont prises dans ce fléau doivent pouvoir trouver des structures d'accueil pour se sevrer.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Catherine. Merci vraiment. C'est très fort ce mot qu'emploie Catherine, Jean-Charles Bouchou. Il faut être capable, c'est ce qu'on disait sur la difficulté de s'arracher à cette relation, être capable de se sevrer. Alors elle y va avec les grands moyens, parce qu'être capable de dire à ses enfants ce qu'elle leur a dit, c'est très très compliqué, évidemment.
Oui,
tout
dur,
ça est extrêmement dur. Mais effectivement, c'est une question de sevrage. Et du coup, j'ai envie de vous reposer la question que j'ai déjà en partie posée. Pourquoi les structures de femmes battues sont pas exactement les mêmes au fond? Enfin, pourquoi pour ces femmes-là, les structures sont pas exactement les mêmes? Parce que le problème, il est exactement le même. L'emprise chez une femme qui est battue est la même, si ce n'est qu'il y a les bleus, alors que là, auprès des pervers narcissiques, c'est plus compliqué à prouver, parce qu'il n'y a pas les bleus.
C'est plus compliqué à prouver. Et un mot peut faire tout aussi mal qu'un coup. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Est-ce que c'est vrai qu'ils font beaucoup d'enfants pour ces raisons-là, ce que nous racontait Catherine?
Beaucoup d'enfants, je ne sais pas, j'ai pas fait de. Je l'ai dit à un moment donné, il y a besoin d'un lien très difficile à rompre. C'est le lien filial, le lien effectivement, le lien des enfants. Un enfant, c'est un lien à vie avec le père ou avec la mère. Donc effectivement, oui, ils voudront un enfant rapidement.
Sylvain, vous êtes le tout dernier. Pardon de vous presser, mais je suis contente que vous nous appeliez. Vous soyez un homme et que vous nous appeliez et on vous écoute. Allez-y, Sylvain.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Donc, j'avais une question, en fait, concernant le cadre professionnel. J'ai un manager avec lequel j'ai, depuis que je vous écoute, depuis une heure, qui coche toutes les cases, qui a vraiment... Je suis pas médecin, mais ça remplit vraiment toutes les conditions et je pense qu'on est sur cette pathologie précise. J'alerte ma structure depuis maintenant 4 ans. J'ai essayé de changer de poste au sein de ma structure parce que c'est un métier que j'aime, parce que c'est professionnellement, c'est quelque chose qui me convient et qui me plaît. Par contre, j'ai de vraies difficultés avec ce manager et j'essaye d'alerter ma structure. Ma question, c'est une structure qui fait la sourde oreille, qui ne veut pas entendre et reconnaître une possible pathologie, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en milieu public, entre guillemets, on a ce docteur Jekyll qui est vraiment quelqu'un de très bien, qui est sympathique, qui donne le change. Ma structure ne veut pas reconnaître cette difficulté. Ça fait 4 ans que j'essaye de la prévenir. J'ai un collègue qui a rejoint l'équipe récemment, enfin depuis 2 ans et demi, et qui lui m'a entre guillemets sauvé la vie, dans le sens où il m'a dit non, ça c'est pas normal, c'est inadmissible comme comportement, c'est presque délictuel. Donc ça m'a permis de prendre un peu de recul et de me dire, ok, c'est pas moi qui fais une fixette sur cette situation, c'est effectivement compliqué, c'est pas normal. Et depuis, j'ai encore un autre collègue qui rentre et qui me dit, effectivement, non, c'est absolument pas logique.
Et donc, du coup, ça, c'est du pur harcèlement moral au travail, Sylvain, peut-être doublé de perversion narcissique. La DRH chez vous, pardon, mais aussi bêtement que ça, répond quoi, en fait hein?
J'ai vu mon DRH il y a 3 ans, je lui expliquais très clairement les choses. Quand je lui expliquais très clairement les choses, parce qu'il y avait une relation qui était particulière avec une collègue, j'avais l'impression que mon manager utilisait cette collègue pour pouvoir nous atteindre. Quand je lui expliquais ça, du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, c'était un lundi, le mardi, mon manager s'est retourné contre cette collègue qui l'adulait, qui montait, qui portait au nu. il s'est retourné contre elle. Depuis, ça fait 2 ans et demi que ma collègue est partie en arrêt maladie, burn-out, et aujourd'hui en incapacité totale de travail. Et depuis, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est une pathologie. Je pense que cette personne, ce manager, a besoin d'avoir quelqu'un dans le viseur et a besoin d'avoir, entre guillemets, une victime.
Merci beaucoup, Sylvain. Pardon, vous avez entendu les bips, je suis désolé hein, de vous interrompre. Juste pour conclure là-dessus, Jean-Charles Bouchou, et sur ce genre d'impasse dans lequel Sylvain semble prisonnier.
La seule solution, c'est nommer un tiers, c'est-à-dire un inspecteur du travail, c'est-à-dire un syndicat, c'est-à-dire un juge. Demander à un tiers d'intervenir, de constater et de poser un jugement.
Merci beaucoup, merci à vous, merci à vos très nombreux appels, merci à tous ceux qui ont eu le courage de témoigner aussi pour raconter des choses qui sont pas simples. Je voudrais laisser un dernier numéro quand même, c'est le 3919, c'est celui de la de Violence Femmes Info, et évidemment c'est toujours extrêmement utile pour tous ceux, toutes celles surtout, très majoritairement, qui nous ont appelés ce soir. Merci beaucoup, il est toujours 20h sur Inter.